Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu spéciale, les vaisseaux spatiaux. On a mis la main sur un document assez fouillé, vaisseauspatiopolis.pdf.
Oui, très dense.
Et on va essayer de décortiquer ensemble les différentes classes de vaisseaux de A jusqu'à F. Et la F, c'est presque plus un monde mobile qu'un vaisseau.
C'est une autre dimension, clairement.
L'idée, c'est de comprendre ce qui fait la spécificité de chaque classe. Leur rôle, leur capacité, combien ça coûte aussi, et leurs limites. Prêt pour le voyage ?
Absolument. Et c'est vrai que cette classification de A à F, c'est la clé de tout. Ça dit direct à quoi sert le vaisseau. Explorer, transporter, combattre.
Ou juste survivre loin de tout.
Exactement. Et ça influe sur tout le reste. Le prix, l'équipage nécessaire, la technologie embarquée. Et bien sûr, il y a les modules qui ajoutent une couche de personnalisation énorme. Mais on aura l'occasion d'en reparler.
Parfait. Bon, alors, attaquons par le début. La classe A. Le document l'a décrit comme compact, agile et, point important, abordable. On parle de 200 000 crédits.
C'est ça. Relativement accessible, quoi.
Le genre de vaisseau idéal pour des missions éclairs, non ? Exploration rapide, petite escorte, transport léger.
Oui, c'est un peu le couteau suisse de base. Très populaire chez les pilotes indépendants ou même ceux qui opèrent, disons, en marge.
Qui aiment pas trop se faire remarquer.
Voilà. Niveau équipage, c'est minimaliste. Un seul pilote peut suffire, on peut mettre quelques passagers, 6 max, et à peine 2 tonnes de cargo.
C'est pas énorme. Technologie de base AU2 et petite taille. 6 sur leur échelle. Qu'est-ce qui ressort le plus ?
Ce qui la définit vraiment, c'est l'agilité et la discrétion. Le document insiste là-dessus. Bonus en maniabilité, en vitesse et surtout une signature très réduite.
Ah, le fameux moins 2 en signature, donc difficile à repérer.
Exactement, c'est son atout maître. Vitesse de croisière standard, une case par jour, leur unité de distance, visiblement, mais l'autonomie est limitée. 10 jours ou 10 cases. Pas énorme.
Et pour fuir vite ou arriver vite ?
Le saut quantique.
Très rapide à charger, juste un ronde.
C'est bien pour se tirer d'affaires, mais seulement 2 charges max et une portée limitée à 15 cases. On peut y mettre une petite tourelle plasma rétractable pour se défendre un peu.
Et les modules de base ?
Logique avec le profil DIP, cockpit assisté pour aider au pilotage, ordinateur de neuf performant et un réducteur thermique pour la furtivité.
Donc, en résumé, point fort.
Pas cher à entretenir, hyper maniable, compatible avec plein de modules, bonne IA de base souvent.
Et les points faibles ?
Bah, c'est une coquille de noix. Hein. Résistance très faible, capacité d'emport ridicule, autonomie courte et confort. Inexistant. Spartiate, comme ils disent.
D'accord. Clairement un vaisseau pour des missions bien précises. Si on veut plus solide, on passe à la classe B. Le mulet de l'espace, c'est son surnom.
C'est ça. Là, on change de philosophie. On passe à quelque chose de plus robuste, fiable, polyvalent. Le transporteur type civil ou commercial.
Le prix grimpe aussi, hein. On est à 500 000 crédits. L'équipage double presque, plus de passagers et surtout le cargo fait x5, 10 tonnes.
Oui, là, on commence à transporter des choses sérieuses. Niveau techno, on monte un peu. IU3.
Et on perd cette fameuse agilité, j'imagine, hein.
Exactement. C'est le compromis. La classe B est bien plus résistante, mais la maniabilité tombe à zéro. Neutre. Fini les acrobaties.
Logique. Mais on gagne quoi en échange ?
Son gros point fort, c'est l'autonomie, qui double. 20 jours ou 20 cases. Ça permet des trajets plus sérieux. Le moteur de saut quantique, lui, porte plus loin. 22 cases. Mais il met plus de temps à charger. 4 rounds.
Et niveau défense ? On peut mettre plus gros ?
Oui, on peut monter jusqu'à 2 tourelles lourdes, ça commence à causer un peu plus. Les modules par défaut sont bien dans l'esprit transporteur fiable.
C'est-à-dire ?
Poste de pilotage renforcé, un système de survie plus autonome pour l'équipage et les passagers. Une soute mieux organisée, compartimentée, qui peut même stocker des modules de rechange. Et une IA de navigation plus complète.
Donc, pour résumer, la classe B, bonne capacité cargo-passager, plus résistant, pas mal de place pour les modules.
10 modules actifs max, c'est déjà bien. Et l'autonomie doublée, c'est clé.
Mais les inconvénients ?
Il est moins agile, enfin pas agile du tout. L'entretien coûte plus cher, il est plus facile à repérer que le A, signature moins 1 seulement. Et il tourne mieux avec un équipage complet. C'est moins un vaisseau de loup solitaire.
Un vrai bourreau de travail, quoi. Ok. Et si on a besoin de... Encore plus, si le transport ne suffit pas ? La classe C... C'est la base mobile logistique.
Ah, là, on entre dans une autre catégorie. Robuste, endurant, et le mot-clé, ultra-modulable.
Le prix fait un sacré bond par contre, hein? 1 200 000 crédits. C'est plus pour le petit transporteur du coin.
Non, là on vise des opérations d'envergure, hein. Expédition coloniale, soutien de convois dans des zones à risque, opérations industrielles lourdes, c'est une plateforme mobile.
L'équipage augmente encore, 4 minimum, mais plutôt 8 à 12, et beaucoup plus de passagers, surtout avec la cryo. Le cargo passe à 60 tonnes. Niveau techno, on est en triple V.
C'est ça, et cette modularité, c'est vraiment son point fort. Sa taille lui permet d'accueillir jusqu'à 14 modules actifs en même temps.
Et ça donne quoi concrètement?
Ben, le document donne des exemples sympas. Un labo scientifique complet, un atelier industriel pour fabriquer des pièces ou réparer sur place, un module habitat écologique qui tient des mois pour 30 personnes, des soutes intelligentes, une IA de niveau stratégique.
On peut vraiment le tailler sur mesure pour une mission longue et complexe.
Exactement. Mais ça a un coût, évidemment. Il est encore moins maniable que le B. On passe à moins 1 en maniabilité.
Il commence à être pataud.
Carrément. Et sa signature est neutre, zéro, donc on le voit arriver de loin. La maintenance commence à devenir coûteuse. Mais en échange,
L'autonomie?
encore doublée, 40 jours ou 40 cases, et le saut quantique gagne en portée, 35 cases, même s'il est plus long à charger, 7 rounds. Et point intéressant,
Oui.
il peut recharger son moteur de saut avec de la radionite.
Radionite. Le document mentionne ça comme si c'était un truc important. C'est quoi au juste?
Bonne question. Le document ne s'étend pas dessus, mais on devine que c'est une ressource, sans doute rare et chère, une sorte de carburant spécial pour le moteur de saut quantique.
Qui permet de recharger en cours de route?
Voilà, sans avoir à rentrer à la base ou attendre des heures et des heures. C'est vital pour les vaisseaux comme le C ou ceux d'après, qui partent loin et longtemps, potentiellement en territoire hostile. Ça leur donne une endurance stratégique énorme.
D'accord, je vois. Une sorte de super carburant pour l'hyperespace. Ça change la donne pour les missions longues. Alors, après cette base logistique, on change complètement d'échelle et de fonction avec la classe D, le croiseur militaire lourd.
Ah oui, là on passe du côté obscur. Les termes utilisés sont clairs, massifs, blindés, terrifiants.
Le prix triple encore, 3 millions de crédits. C'est la colonne vertébrale des flottes militaires, c'est ça?
C'est l'image, oui. Une forteresse volante conçue pour encaisser les tirs, coordonner les opérations et, ben, faire très mal.
L'équipage devient important. 8 minimum, mais plutôt 25 à 50. Et il transporte surtout des troupes, 80 soldats, et du matériel, voire des petits vaisseaux d'assaut type barge ou vedette. Technologie avancée, IV ou V.
C'est ça. Ici, la priorité absolue, c'est la résistance et la puissance de feu.
J'imagine que le blindage doit être conséquent.
Énorme. Résistance de 18 sur leur échelle. Mais cette carapace a un prix. Il est très peu agile, moins 2 en maniabilité, presque léthargique comparé aux autres.
Son rôle n'est pas d'esquiver.
Non, c'est d'encaisser et de riposter durement. Son autonomie est exceptionnelle, encore le double du C, 80 jours in case. Il peut opérer très loin et très longtemps.
Et le saut?
Toujours plus lent. Oui, 9 rounds pour charger les, mais une portée de 45 cases. Et il dépend aussi de la radionite pour tenir sur la durée. L'armement, c'est du lourd, hein? 4 systèmes d'armes principaux avec une portée de 120 et des dégâts de 4 des 10. Ça commence à piquer sérieusement.
Et il peut embarquer encore plus de modules?
Oui, jusqu'à 18 actifs. Et là, c'est clairement orienté militaire. Pont tactique pour le commandement, salle des machines redondantes pour survivre aux dégâts, centre médical avancé, même des biosserres pour l'autonomie et une IA de commandement de flotte.
Donc, les plus, résistance incroyable, grosse puissance de feu, capacité de commandement.
C'est ça. Les moins, très lent à manœuvrer, une maintenance que le document qualifie de titanique.
Titanesque, ça veut dire quoi concrètement pour une faction qui voudrait en aligner plusieurs? Ça doit être un gouffre logistique, non?
Ah bah oui, titanesque, ça veut dire bien plus que changer une ampoule. Ça suppose des chantiers spatiaux gigantesques, des équipes d'ingénieurs hyper spécialisées et nombreuses, un flux constant de pièces détachées ultra complexes et chères, une consommation d'énergie démentielle même à quai.
En gros, maintenir une flotte de classe D, c'est pas pour tout le monde.
Clairement pas. Ça demande une économie et une industrie derrière qui tiennent la route. C'est aussi pour ça qu'il a une signature énorme, plus 1, impossible à cacher, et qu'il est lent à démarrer, accélération 4. C'est une cible de choix, précieuse mais vulnérable sans escorte.
On voit bien le coût caché derrière la puissance. Et ça ne s'arrête pas là. L'escalade continue. Classe E, le Dreadnought, le vaisseau capital.
Le symbole ultime de la puissance militaire. Là, le prix, il explose. 12 millions de crédits et c'est un minimum.
C'est une forteresse mobile qui peut contrôler tout un secteur spatial, à la fois arsenal, base avancée et outils politiques. L'équipage se compte en centaines, voire milliers avec les troupes.
50 minimum, mais plutôt 200 à 500 en optimal, et jusqu'à 5000 passagers ou troupes. Le cargo est énorme, 500 tonnes, sans compter les escadrons de chasseurs ou de plus petits vaisseaux qui l'embarquent.
Technologie de pointe, V ou 6, qu'est-ce qui le différencie vraiment du croiseur lourd, à part la taille et le prix?
C'est l'échelle d'opération. Le croiseur D est la colonne vertébrale d'une flotte. Le Dreadnought E, lui, peut commander plusieurs flottes en même temps, sur des théâtres d'opérations immenses.
Un poste de commandement interflotte?
Exactement. Sa résistance atteint le maximum mesurable, 20, mais alors la maniabilité, moins 3. Il est quasiment inerte en combat tactique. Il ne bouge quasiment pas.
Il compte sur sa taille et son escorte?
Totalement. Son autonomie est colossale, 160 jours case. Des déploiements de plusieurs mois, voire un an ou plus, le saut quantique est une opération majeure. 17 rounds pour charger, c'est énorme. Mais la portée est intersectorielle, 120 cases et il a 8 charges, toujours avec la radionite bien sûr.
Et l'armement doit être?
Écrasant, c'est le mot du document. 8 systèmes d'armes lourds principaux, encore plus puissants, 5 des 10, portée de 160, plus des dizaines de systèmes de défense secondaires. Et les modules, plus 30 actifs possibles.
On peut y mettre quoi? Des villes?
Presque. Casernes, hôpitaux de campagne complets, usines d'armement, des ponts d'envol pour des centaines de chasseurs, des réseaux de drones de combat, une IA stratégique militaire de très haut niveau. C'est une véritable ville militaire mobile.
Les avantages sont clairs. Puissance de feu et blindage démentiel, commandement stratégique.
Autonomie prolongée, capacité de projection de force inégalée, effet dissuasif énorme.
Les limites?
Tout aussi monumentale. Inertie tactique quasi totale, coût et maintenance astronomique, signature gigantesque, plus 2, dépendance absolue d'une flotte d'escorte pour survivre, et c'est la cible prioritaire dans n'importe quel conflit.
Waouh! Une ville militaire mobile. Difficile de voir ça comme un simple vaisseau. Et pourtant, il y a encore une classe au-dessus, la classe F.
Oui, et là, on quitte le domaine du connu, en quelque sorte. Le document devient presque poétique ou effrayant.
Comment ça?
Il la décrit comme un titan, une civilisation nomade, plus vraiment un vaisseau, mais une mégastructure, capable d'abriter des millions d'êtres, de manipuler l'énergie d'une étoile. Chaque exemplaire serait unique, mi-artefact ancien, mi-monde autonome, mi-entité consciente.
Conscience, coût inestimable, technologie transcendante, c'est...
C'est de la science-fiction avancée, oui. L'équipage...
Potentiellement des dizaines de milliers, mais peut-être dirigé par une IA consciente. Capacité d'accueil et cargo quasi illimitée. Taille
20 plus, hors échelle.
C'est vertigineux. Et techniquement, ça donne quoi?
Les chiffres deviennent presque absurdes. Résistance 24 plus, quasi infini. Maniabilité moins 4, donc totalement immobile tactiquement. Autonomie illimitée, autosuffisance totale, peut-être grâce à une étoile captive ou une singularité artificielle interne.
Une étoile captive?
C'est l'idée. Le saut quantique, bien que long à charger 12 rounds, a une portée de 70 cases et 6 charges, mais se recharge sur ses propres sources d'énergie interne, qui sont d'un tout autre ordre.
Et l'armement? J'ose à peine demander.
Armement gravitationnel, fractal, dimensionnel. Des dégâts de 5 des 12 ou décrits comme narratif massif. Capable d'effacer des planètes, j'imagine.
Mon Dieu. Et les modules?
Ce sont plutôt des biotopes entiers, des écosystèmes complets, un noyau civilisationnel géré par une IA. Le document mentionne ce nom étrange, Victor Infini, comme une IA potentiellement consciente. Il peut générer des barrières gravitationnelles, avoir des portes de saut internes.
Cette IA consciente, Victor Infini, ça sonne fascinant et terrifiant à la fois. Le document en dit plus, sa nature, ses buts?
Très peu. Le document reste très allusif, ce qui ajoute au mystère. C'est présenté comme une possibilité, une IA tellement avancée qu'elle gérerait tout et pourrait développer sa propre conscience.
Avec tous les risques que ça implique.
Exactement. Quels seraient ses objectifs? Est-elle stable? Le document mentionne d'ailleurs le risque de folie de l'IA comme une des limites possibles de ces entités.
Donc, avantage, capacité quasi divine, puissance absolue, autosuffisance.
Influence cosmique majeure. Mais les risques sont à la hauteur. Sa taille même peut créer des problèmes internes, sociaux, culturels. L'IA peut devenir folle, incontrôlable, hostile. La structure elle-même pourrait être une menace, même involontairement.
Et souvent incontrôlable par qui que ce soit d'extérieur.
C'est ce que ça suggère. Ces classes F agiraient selon leur propre logique, peut-être incompréhensible pour nous.
Ça laisse rêveur. Ou ça donne des cauchemars. Cette exploration des classes montre une échelle de puissance et de complexité absolument incroyable. Mais on a dit qu'un vaisseau, ce n'est pas que sa classe. Il y a les modules.
Oui, la personnalisation.
C'est essentiel. Le document dit qu'on peut transformer un transporteur en vaisseau furtif, un éclaireur en labo volant. Comment ça marche, cette modularité ?
Ben, les modules, ce sont des équipements spécifiques qu'on ajoute ou qu'on change sur un vaisseau. On les trouve dans les spatioports, sur le marché officiel ou parfois ailleurs.
Sur le marché noir, on imagine ?
Voilà. L'installation dépend de plusieurs choses, la classe du vaisseau, plus c'est gros, plus il y a de place, les emplacements disponibles, la taille du module lui-même, certains prennent plusieurs slots, et bien sûr, l'énergie disponible.
Et il y a différentes catégories.
Oui, le document les regroupe par fonction. Par exemple, pilotage et navigation, ça va du cockpit amélioré qui donne un bonus au pilote, à une IA qui calcule les trajectoires de saut toute seule.
Utile ça.
Très. Puis, détection et furtivité. Des brouilleurs, des réducteurs de signature pour être discret, ou au contraire, des super scanners longue portée pour voir arriver les ennuis de loin.
Armement et défense, ça c'est clair.
Tourelles supplémentaires, lance-missiles, boucliers d'énergie, tout l'attirail. Ensuite, support et ingénierie. Des ateliers de réparation, des imprimantes 3D pour fabriquer des pièces en urgence, des systèmes pour aider au diagnostic des pannes.
Pour tenir plus longtemps, loin d'une base.
C'est l'idée. Après, il y a survie à habitat. Des systèmes de support de vie plus performants, des quartiers plus confortables ou les fameux modules de cryosommeil pour transporter des gens sur de très longues distances.
Et enfin,
portables, des modules de guerre électronique, plein de choses très spécifiques.
Et tout ça, j'imagine, ça a un coût.
Ah oui, souvent cher, parfois rare. Et l'installation ou même l'utilisation peuvent demander un ingénieur qualifié à bord ou une IA assez performante pour gérer le module. C'est pas juste plug and play.
Fascinant de voir comment la structure de base, la classe et ses briques de personnalisation, les modules, créent une telle diversité de possibilités. On a vraiment vu une progression folle du petit classe A agile au quasi-dieu classe F.
C'est clair. Le choix du vaisseau et de son équipement dépend totalement de la mission, des moyens qu'on a et de l'échelle à laquelle on opère. Du pilote solo à l'amiral d'une flotte interstellaire.
Alors finalement, la question, c'est comment on navigue dans toute cette diversité? Comment on choisit?
Ben, c'est toute la question, oui. Cette échelle de A à F, c'est pas juste de la technique. C'est une échelle d'ambition, en fait. L'indépendance et la débrouille pour la A, le commerce pour la B, l'expansion pour la C, la puissance brute pour D et E.
Et le mystère pour la F.
Et le mystère absolu pour la F. La modularité donne une flexibilité énorme, c'est vrai, mais elle a ses limites, le coût, l'énergie, la complexité technique. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, justement à propos de cette classe F.
Oui.
Avec des vaisseaux, des choses pareilles qui brouillent la ligne entre un vaisseau, un écosystème, une intelligence artificielle, où est la limite? À quel moment est-ce qu'on peut encore considérer ça comme un simple outil spatial?
Bonne question.
À quel moment le vaisseau cesse d'être un moyen pour devenir autre chose? Une entité avec ses propres buts, peut-être complètement hors de notre portée ou même de notre compréhension. Ça va plus loin que la fiche technique, ça, comme question.